s'écria de nouveau Flore. Je vois le genre. On lui a tué son chien, ça a dû changer sa vie, comment t'as loupé. Mais Juan Diego ne traduisit pas. Une bagarre venait d'éclater devant l'hôtel. Elle avait dû commencer à l'intérieur, mais elle s'était poursuivie jusque dans la rue. Oh merde, c'est le brave gringo, dit Flore. Ce jeune-là, il est bon qu'à se faire du mal. Il aurait couru moins de risques au Vietnam. Il y avait de plus en plus de hippies américains à Huachaca. Certains étaient accompagnés de leurs amis, mais elles ne restaient jamais longtemps. La plupart venaient seuls ou se retrouvaient seuls. Ils fuyaient la guerre du Vietnam ou ce que leur pays était devenu, disait Edward Bronshaw. Ils leur tendaient la main, une main secourable, mais en général, ce n'étaient pas des croyants. Tels les chiens des toits, c'étaient des âmes perdues, qui menaient une vie débridée ou traînaient en ville comme des ombres. Flore aussi leur avait tendu la main. Tous ces jeunes paumés la connaissaient. Peut-être leur plaisait-elle parce que c'était un travesti. Comme eux, elle était encore un garçon. Mais ils l'appréciaient aussi pour son anglais excellent. Elle était partie vivre au Texas, puis était revenue au Mexique. Elle n'avait jamais changé de version quand elle racontait son histoire. « Disons simplement que pour quitter Huachaca, il m'a fallu passer par Houston. »« Vous êtes déjà allé à Houston, vous ?» Bon, pour faire bref, disons qu'ensuite, il m'a fallu quitter Houston. Juan Diego et Lupe avaient déjà vu le brave gringo dans les parages. Un matin, frère Pepe l'avait trouvé endormi sur une rangée de sièges de l'église jésuite. Dans son sommeil, il chantait « The Streets of Laredo », une chanson de cow-boy, dont il répétait sempiternellement le premier couplet. Un jour que je marchais dans les rues de Laredo, un jour que je marchais dans Laredo, un malheureux cow-boy. J'ai aperçu, tout de lin blanc vêtu, et froid comme la terre du tombeau. Le jeune hippie avait toujours été gentil avec les enfants. Information prise, on venait de le jeter dehors sans lui laisser le temps de s'habiller. Il gisait sur le trottoir recroquevillé en position fœtale pour se protéger des coups de pied. Il n'avait sur lui que son jean. Il serrait contre lui ses sandales et une chemise crasseuse à manches longues, la seule que les enfants lui aient jamais vue sur le dos. Mais ce qu'il ne soupçonnait pas, c'était son immense tatouage. Un Christ en croix, face en sang, couronne d'épines sur la tête, s'étalait sur le torse nu du gringalet. La poitrine du Fils de Dieu lui-même, blessure comprise, recouvrait son ventre nu. Les bras tendus, ses poignets et ses mains martyrisés, était tatoué sur les avant-bras et les bras du hippie. On aurait dit que le corps du Christ avait été agrafé sur le sien. C'était la première fois que les enfants voyaient le brave gringo torse nu. Lui et le Christ étaient mal rasés, leurs longues chevelures pareillement emmêlées. Au-dessus du jeune Américain, sur le trottoir de la calle Saragossa, se tenaient deux gros bras. Les gamins de la décharge connaissaient le plus grand, un barbu nommé Garza. Posté devant le vestibule du Somega, il faisait office de videur et éjectait régulièrement les deux enfants. Il considérait la cour de l'hôtel comme son territoire. L'autre nervi, plus jeune et plus enrobé, s'appelait César, et c'était son esclave personnel, car Garça sautait sur tout ce qui bougeait. « C'est comme ça que vous prenez votre pied ?» demanda Flore aux deux gros bras. Une prostituée toute jeune, à la peau grêlée, et qui n'était pas beaucoup plus couverte que le brave gringo, se tenait près d'eux. Elle se nommait Alba, Aube, et Juan Diego se dit que c'était le genre de fille avec laquelle on passerait un moment aussi fugace que le point du jour.
Il m'a pas donné assez, dit-elle à Flore.
Elle m'a demandé plus que ce qui était convenu, articula le gringo. Moi, je lui ai donné ce qu'elle m'avait annoncé au départ.
Emmenez-le avec vous, dit Flore à Juan Diego. Si vous avez pu sortir en douce, il devrait pouvoir rentrer de même, hein?
« Les nonnes vont le trouver demain matin, » dit Lupe, « ou alors ce sera frère Pepe ou seigneur Eduardo. »
Juan Diego tenta d'expliquer la situation à Flore. Lupe et lui partageaient une chambre et une salle de bain. Il arrivait que leur mère débarque sans crier gare. Mais Flore voulait qu'il récupère le gringo. Aux enfants perdus, il serait en sécurité, personne ne le cognerait.
« Vous n'avez qu'à dire aux religieuses que vous l'avez trouvé sur le macadam, et que vous avez agi par charité, » expliqua Flore à Juan Diego. Raconte qu'il n'avait pas de tatouage et que, quand tu t'es réveillé ce matin, il portait ce grand Christ étalé sur tout son corps.
et qu'on l'a entendu chanter dans son sommeil cette chanson de cow-boy. Mais comme il faisait noir et on n'y voyait rien, improvisa Loupé. Son tatouage a dû se graver tout seul pendant la nuit.
Comme pour lui répondre, le hippie à moitié nu avait repris sa chanson. Il ne dormait plus.
Sans doute chantait-il The Streets of Laredo pour narguer les deux gros bras qui l'avaient molesté, et il en était au deuxième couplet.
Aux vêtements que tu portes, je vois que tu es un cow-boy. Ces mots il m'adressa comme je passais lentement devant lui.
Viens t'asseoir auprès de moi, écoute ma triste histoire. J'ai pris une balle dans la poitrine, et je sais que je vais mourir.
Jésus-Marie-Joseph, souffla Juan Diego.
Alors, l'homme à roulette, ça gaze ? Demanda le brave gringo, comme s'il venait à peine de remarquer le fauteuil.
Et toi, petite sœur, fais gaffe aux excès de vitesse. Tu t'es pas appris une amende ?
Loupé l'avait déjà tamponné en poussant Juan Diego. Flore aidait le jeune hippie à se rhabiller.
Si tu portes encore la main sur lui, garça, je te coupe la bite et les couilles dès que tu t'endors.
T'as le même bazar entre les jambes, rappela l'intéressé au travesti.
Non, mon bazar à moi, il est bien plus gros que le tien, rétorqua Flore.
César éclata de rire, mais le regard que lui jetèrent Flore et son maître le réduisit aussitôt au silence.
Et toi, il faut que tu fixes ton prix dès le départ, Alba, enjoignit Flore à la jeune prostituée grêlée. Tu dois pas changer d'estimation en route.
J'ai pas de conseils à recevoir de toi, Flore, riposta Alba une fois qu'elle fut hors de sa portée dans la cour de l'hôtel Somega.
Flore accompagna les deux gamins et le gringo jusqu'au Socalo.
Je te revaudrai ça, lui lança l'Américain lorsqu'ils se séparèrent.
Et à vous aussi, les enfants. Je vais vous faire un cadeau.
Comment on va le cacher ? Demanda Loupé à son frère. On pourra le faire rentrer en douce ce soir sans problème, mais demain matin, ça sera une autre paire de manches pour le sortir sans le faire voir.
Je réfléchis à cette histoire de tatouage miraculeux. Pareille idée ne pouvait que séduire le lecteur de la décharge.
C'est bien un petit miracle, commença le gringo. L'idée m'en est venue, mais Loupé l'interrompit.
Promets-moi quelque chose, demanda-t-elle à Juan Diego.
Encore ? Promets-moi, s'écria-t-elle.
Si je finis cahier Saragossa, tue-moi. Je veux que tu me tues. Allez, dis-le.
Jésus-Marie-Joseph, s'exclama Juan Diego en s'efforçant d'imiter le ton de Flore. Le hippie avait perdu le fil de ce qu'il disait. Il chantait maintenant le troisième couplet de The Streets of Laredo, comme s'il en écrivait lui-même les paroles inspirées.
Trouvez-moi six vaillants cow-boys pour porter mon cercueil, six jolies demoiselles pour les cordons du poêle. Placez des bouquets de roses sur mon cercueil, elles amortiront le choc des mottes de terre.
Allez, vas-y, répéta Loupé.
D'accord, je te tuerai, voilà, t'es contente?
Oh là là, l'homme à roulette et la petite sœur, personne ne va tuer personne, ok? On est tous potes ici, hein?
Le brave gringo soufflait une haleine mescalisée que Loupé appelait l'haleine parfumée au ver de terre, à cause de celui qu'on met au fond des bouteilles.
Le mescal, c'est la tequila du pauvre, disait Rivera. Ça se boit de la même manière avec du sel sur le tranchant de la main et du jus de citron vert.
Le hippie sentait le citron vert et la bière. La nuit où les enfants l'introduisirent en catimini dans l'orphelinat, ses lèvres étaient couvertes d'une croûte de sel et il en avait aussi dans le petit bouc qu'il se laissait pousser. Ils l'installèrent dans le lit de Loupé. Après quelques minutes, il dormait à poings fermés. Entre deux ronflements, on aurait dit qu'il soufflait le quatrième couplet de The Streets of Laredo dans son haleine.
Oh, faites lentement rouler les tambours, et soufflez dans les fifres en sourdine pour jouer la marche funèbre quand vous m'emporterez. Dans la vallée, menez-moi, et de terre, couvrez-moi. Je suis un jeune cow-boy, je sais que j'ai fauté.
Loupé mouilla un gant de toilette, et essuya la croûte de sel sur ses lèvres et son visage. Elle aurait voulu le couvrir de sa chemise parce qu'elle redoutait de voir son Jésus sanguinolent au milieu de la nuit. Mais lorsqu'elle renifla le vêtement, elle déclara qu'il puait le mescal, ou le vomi de bière, ou peut-être le ver mort. Alors elle se contenta de remonter le drap jusqu'au menton du jeune Américain, en le bordant tant bien que mal. Il était grand et maigre. Ses bras, qui portaient gravés les mains et les poignets blessés du Christ, reposaient le long de son corps.